Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Jean chapitre 6. Et je voudrais lire à partir du verset 43 et vous parler du pain du ciel. Nous avons vu déjà que Christ ici s'est identifié comme le pain qui est descendu du ciel. Et cela, nous voyons dans le verset 41. Et à ce sujet, les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. On peut peut-être se demander, mais pourquoi cela pouvait les enrager tel? Mais c'est parce que, disant qu'il était le pain qui est descendu du ciel, Il disait qu'il était Dieu dans la chair. Tout cela est compris dans cette expression. Et c'est pour ça qu'ils ont posé cette question. Ils ont dit, mais n'est-il pas le fils de Joseph? Pourquoi alors est-ce qu'il dit qu'il est descendu du ciel? Imaginons si on rencontrait quelqu'un dans la rue. Et on lui demande au sujet de sa naissance, et il nous disait qu'il est descendu du ciel, ça allait nous choquer. Tel est le mystère de l'incarnation, le fait que Dieu a pris chair. Cette vérité, quoique beaucoup disent que Jésus est venu de Dieu, l'idée que c'est Dieu lui-même qui occupait ce corps-là, dans la personne du Seigneur Jésus, c'est ça qui est le mystère. Mais pour comprendre cela, il faut que Dieu lui-même donne des yeux pour voir. Alors ça, c'est le contexte de notre passage, parce qu'ils ont dit dans le verset 42 de Jean 6, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Il parle là de point de vue naturel, n'ayant pas des yeux spirituels pour voir, contempler qui est Christ dans toute sa divinité. Il ne voit que le Père et la Mère. Nous savons que Marie, en tant que mère de Jésus, c'est Dieu qui s'est servi d'elle pour faire venir son fils dans ce monde, mais selon les Écritures, elle était vierge. Elle n'avait pas connu un homme, même Joseph, avant la conception de Jésus-Christ. Les Écritures sont claires que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il n'est pas devenu le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu depuis l'éternité, mais il est devenu fils d'homme. Et c'est de cette manière que le Père, Dieu le Père, son Père céleste, avec qui il est un depuis l'éternité, c'est de cette manière qu'il a ordonné à ce que Christ vienne dans ce monde. Et il fallait ça, parce que Dieu est esprit, et Dieu ne peut pas mourir, mais pour accomplir sa justice, il fallait que Christ vienne dans la chair et qu'il verse son sang. Il faut qu'il soit l'agneau de Dieu immolé afin que Dieu soit satisfait et que le péché, les péchés de son peuple soient effacés. Non seulement effacés, mais que ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort soient justifiés, acquittés de toute charge, de toute condamnation à leur égard. Donc, c'est le mystère de l'incarnation, le fait que c'est de cette manière que Dieu a ordonné à ce que le salut soit accompli. Mais pour les hommes, en regardant le Seigneur Jésus, et nous pouvons comprendre cela, que voilà un homme qui a l'aspect naturel ressembler à des hommes comme l'entouré, les juifs. Si on voyait un juif qui marchait dans la rue et on regardait, c'est de cette manière que Christ lui-même marchait. C'est pourquoi cela étonnait ces hommes qui étaient autour de lui, en qui Christ n'est pas encore révélé, que Christ dise qu'il est descendu du ciel. Alors, verset 42, il pose cette question, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Et je dois dire que nous aussi, nous devrions être de ce nombre-là qui pose ces questions. Si nous voyons en Christ qu'il est Dieu dans la chair, ce n'est pas naturellement, ce n'est pas avec la simple raison que nous sommes arrivés à cette conclusion. C'est plutôt que l'Esprit de Dieu nous a donné des yeux pour voir Christ à travers ses Écritures et que nous croyons en lui en tant que tel. Et c'est pourquoi Christ dit dans le verset 43, Jésus le répondit, ne murmurez pas entre vous. C'était des gens qui devaient connaître que les Écritures, parce que ceux-là, ces Juifs avec qui ils s'entretiennent ici, étaient ceux qui étudiaient les Écritures. Nous avons déjà vu cela dans Jean chapitre 5, dans le chapitre précédent. Ils étaient des hommes qui sondaient les Écritures. Ils étaient des docteurs de la loi. Donc, ils avaient ces Écritures et ils lisaient les Écritures. Mais comme Jean 5, 39 nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, même à notre jour, l'aveuglement de beaucoup de gens qui sont des enseignants et qui prennent cette parole pour enseigner, prêcher aux autres. Et ils ont une grande appréciation pour les Écritures. Ils ouvrent la Bible, ils disent aux gens d'ouvrir vos Bibles et suivez avec moi. Ils sondent les Écritures. Et comme les Juifs à l'époque, pensant en elles avoir la vie éternelle. Combien de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui mémorisent la parole de Dieu et qui peuvent même citer les versets, mais qu'est-ce qui manque? C'est écrit dans Jean 5, 39, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je dois dire que lorsque vous entretenez avec des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, vous prenez cette même Bible qu'ils lisent et vous leur montrez le Christ de la Bible, vous aurez le même résultat, vous aurez des murmures. Ce mot signifie des débats où entre eux maintenant, ils veulent tout croire sauf croire que cette parole à un seul sujet, et c'est Jésus-Christ. Et c'est là que nous devons faire attention. Je reçois souvent des questions qui n'ont aucune importance, parce que ces questions ne sont pas centrées sur les cinq questions que je cite souvent. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi il est venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a accompli en venant dans ce monde, pour qui est-ce qu'il est venu dans ce monde et où est-ce qu'il est maintenant? Les réponses à ces cinq questions nous démontrent ce que quelqu'un comprend de l'Évangile ou pas, s'il est encore ignorant ou bien si Christ a été déjà révélé en lui. Nous savons que pour connaître Christ, il faut la parole de Dieu, mais il faut aussi l'Esprit de Dieu. Autrement, cette parole que nous tenons entre nos mains ici n'est autre que de simples encres et papiers, si ce n'est l'Esprit qui prend cette parole pour nous révéler Christ au cœur. Il faut ça. Exactement de la même manière, il faut des yeux pour voir, mais il faut aussi la lumière. Si la lumière est éteinte, je peux bien avoir des yeux physiques pour voir, mais je ne peux pas apprécier ce que je regarde, ce que je vois, tant qu'il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi, lorsque nous nous levons la nuit, il faut une lampe, il faut la lumière, l'électricité, pour que nous puissions marcher clairement. Et cela est vrai aussi spirituellement. Donc si ces hommes ici, dans Jean 6, 43, murmuraient à son sujet, c'est parce qu'ils étaient encore dans l'aveuglement. Et nous avons vu dans le verset 44, déjà, ça pose la question, mais comment est-ce que quelqu'un peut alors venir à Christ? Christ dit dans le verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc nous voyons déjà par là que venir à Christ ne dépend pas de la décision de l'homme. Tous ceux qui prêchent le libre arbitre aujourd'hui sont encore dans les ténèbres. Ceux qui exaltent l'homme au-dessus de Dieu dans le salut, ou qui même font de l'homme l'égal de Dieu, ils sont encore dans la rébellion de leur cœur et aveugles. Parce que Christ dit clairement, verset 44, « Nul ne peut venir à moi. » Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, ce que ceux-là n'appréhendaient pas, c'est que ils étaient en face de Christ, qui est Dieu dans la chair. Eux, ils ne voyaient qu'un saint homme devant eux. Mais Christ, en tant que Dieu, connaissait déjà leurs pensées. Dans le verset 43, lorsque Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ils n'entendaient pas seulement ce qu'ils disaient à son sujet, mais ils connaissaient leur cœur, comme il connaît le cœur de chacun de ses créatures. Et ce qui est dans ce cœur n'est autre que la rébellion. Et nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que étant la vérité, ne pouvait que dire la vérité, et pas comme un homme qui, de temps en temps, quand c'est convenable, il va dire la vérité, mais dans d'autres situations, il cache la vérité. C'est comme ça beaucoup vivent. Je dis ça souvent au sujet des prédicateurs. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas cette vérité dans les Écritures, parce que tout le monde peut lire ce passage 44, Jean 6, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Mais ils veulent côtoyer ce qui est écrit parce qu'ils ont peur. S'ils prêchent exactement ce qui est écrit ici au sujet de la souveraineté de Dieu, et que le salut ne dépend pas de l'homme, et que Christ est venu non pas pour sauver tous les êtres humains, mais pour sauver ce peuple que le Père lui a donné. Il y en a, ils voient ça dans la Bible, mais ils ont peur de prêcher, parce qu'ils préfèrent avoir l'approbation des hommes que prêcher pour la gloire de Dieu. Mais Christ connaît les cœurs, et c'est pourquoi il insiste sur cette vérité. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Parfois nous lisons, c'est le Père qui attire. Autrefois nous lisons que c'est Christ qui attire. Et ailleurs, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui attire. Mais dans cela, l'œuvre du salut est l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et la manière que le Père agit, c'est en révélant Christ dans le cœur, et l'Esprit maintenant donne cette foi pour croire en Christ. La foi et la repentance sont synonymes. La repentance, c'est le cœur tourné vers Dieu, et la foi, c'est de se reposer en Christ et à son œuvre accomplie. On ne peut pas avoir la repentance sans la foi, et on ne peut pas avoir la foi sans la repentance. Les deux sont les dons de Dieu au cœur des pécheurs que Christ a rachetés. Et c'est pourquoi, dans le verset 45 que nous avons vu la dernière fois, et ici, l'apôtre Jean est en train de citer un passage dans l'Ancien Testament quand il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, et a reçu son enseignement, vient à moi. Le passage dans l'Ancien Testament qu'il est en train de citer, si vous voulez bien regarder, c'est dans Ésaïe chapitre 45 et le verset 13. Nous voyons cela cité par Ésaïe, bien d'années avant que Christ ne vienne dans le monde. Ici dans Ésaïe chapitre 45, plutôt c'est Ésaïe 54, pas 45, mais 54, et le verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grand sera la prospérité de tes fils. » Alors, ce qui est clair, c'est que tous ceux que Dieu veut sauver, ils sauvent. C'est bien précisé, ils seront tous enseignés de Dieu. Cela ne signifie pas que quand on voit le mot « tous » là, il faut pas sauter ça de son contexte. Ils seront tous qui? Verset 44, ceux que le Père a envoyé Christ sauver et que le Père attire, ils, ceux-là, seront tous enseignés de Dieu. C'est pourquoi, en tant que prédicateurs, nous ne devons pas nous inquiéter du résultat. C'est notre tâche, c'est simplement de se lever et prêcher clairement cet évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui œuvre comme il veut. Et il faut dire que ce n'est pas ceux-là que nous visons souvent dans la prédication qui vont recevoir nécessairement ce message. Non. C'est ceux-là que Dieu vise. Il connaît où il va diriger la semence quand Christ est prêché. Et c'est comme n'importe quelle semence. Parfois, ça peut rester dans la terre pour un certain temps avant de pousser. Nous ne pouvons pas dicter la manière ou le moment où nos auditeurs croiront. Nous ne savons pas qui sont à Dieu et qui ne sont pas à Dieu. Comme pour Christ, il y en avait qui le suivaient et à l'extérieur ressemblaient à des disciples, mais en réalité n'étaient pas de tout des disciples. C'est pourquoi plus tard, dans ce chapitre, nous allons lire que verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils étaient offensés. Et si vous vous demandez, mais quelle était leur offense? C'est la même que nous voyons ici au début. D'abord, la personne de Christ n'était pas d'accord qu'il soit Dieu dans la chair. Je peux dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens et qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et disent même que Jésus est Dieu. Pourtant, dans cette question du salut, ils ne veulent pas que Christ ait le droit en tant que Dieu de sauver qui il veut. Ils disent non, mais ils laissent le choix à l'homme. Mais ça, c'est quel Dieu? Dans la création du monde, Dieu n'a pas laissé le choix à l'homme. En fait, l'homme était créé le sixième jour. C'était à la fin de cette semaine de création que Dieu a créé l'homme. Et je dis souvent, ça c'est pour prouver que l'homme n'avait rien à faire avec la création de ce monde. Il était créé à la fin. Et c'est aussi vrai dans la gouvernance de ce monde. Ce n'est pas l'homme qui dirige ce monde ou l'univers. Nous sommes des habitants, mais c'est Dieu qui dirige toutes choses selon sa volonté. C'est lui qui a placé le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Il y a des millions de galaxies comme la nôtre qui existent. Tout cela, Dieu a créé. Et nous voilà comme des petits points dans cet univers qui habite cette terre. Qui sommes-nous pour dire que nous dirigeons quoi que ce soit en ce qui concerne le monde et sa gouvernance? C'est Dieu qui suscite les hommes et qui dépose les hommes. Le pouvoir est à lui en toutes choses. Donc, si tel est vrai en ce qui concerne le monde et sa gouvernance, certainement en ce qui concerne le salut et la vie éternelle, cela ne dépend pas de l'homme. Mais c'est Dieu qui fait sa volonté. Et pour cela, beaucoup sont scandalisés, comme au jour de Christ. Quand c'est écrit dans Jean 6, 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Le point de scandale, c'est dans le verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul. Cela veut dire personne ne peut venir si cela ne lui est donné par le Père. Telle est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ceux-là que Dieu a destinés au salut, ils seront tous enseignés de Dieu. Et voilà notre confort en prêchant. Je ne sais pas qui ils sont. Quand je réfléchis même sur la manière que aujourd'hui je prêche Christ et je le connais tel qu'il est dans les Écritures, je dois affirmer que cela n'est pas venu de moi. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas à travers mes études. Mais c'est par l'Esprit de Dieu et le Père qui donne cet Esprit. Dans le verset 46, Christ dit, c'est que nul n'a vu le Père. Donc ici, nous voyons cette collaboration entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Il dit, nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Alors, c'est pourquoi nous croyons que tous ceux que le Père a choisis et pour qui le Seigneur Jésus est venu dans le monde, ceux-là, certainement, l'Esprit de Dieu va attirer. Et c'est pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et nous avons vu ça la dernière fois, celui qui croit en moi, ça ne dit pas aura la vie éternelle, mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est très important. Aura signifie, vous pouvez dire que oui, il faut que l'homme croit d'abord, et puis ensuite, Dieu lui donne la vie éternelle. Mais si l'homme est capable de croire sans avoir d'abord l'Esprit de Dieu, c'est pour dire qu'il n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. Mais cette pensée va contraire à ce que nous lisons ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pourquoi il croit. C'est parce qu'il a déjà cette vie éternelle qui lui a été donnée. Mais pour connaître le Père, selon ce qui est écrit dans le verset 46, nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu sauf à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui prétendent qu'il y a plusieurs manières de venir à Dieu et que Jésus-Christ n'est qu'un de ces moyens, mais il y a aussi d'autres qui sont sincères et alors peuvent aussi être acceptés de Dieu. Mais comment arriver à Dieu le Père si ce n'est à travers le Fils? Christ précise que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Cela veut dire c'est Christ. Et nous savons que nul ne verra le Père si ce n'est Christ qui le révèle en lui. Et pour cela, il faut la vie éternelle. Il faut que Christ, qui est la vie éternelle, soit révélé au cœur. Et comment? À travers les Écritures. Et comment? Ayant les yeux ouverts. Donc, en cela, nous voyons que le salut est entièrement de Dieu. Donc, c'est là que Christ revient sur ce sujet qui était au début le scandale, où dans le verset 41, il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». C'est une illusion à la manne que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël pour les nourrir. Donc Christ est en train de s'identifier avec cette manne, disant que cette manne était une image de lui. C'est pourquoi ça a été donné. Donc dans le verset 48, il revient là-dessus, il dit... Dans le verset 41, il dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ici, il dit « Je suis le pain de vie ». Dans ce pain était la vie, était tout ce qui était nécessaire pour soutenir et nourrir et maintenir les enfants d'Israël dans la vie, dans l'Ancien Testament, dans le désert. Donc spirituellement, vous voyez la comparaison. Que c'est en Jésus-Christ qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour la vie, parce qu'il est la vie. Nous ne devons pas douter de lui. Quand il dit « Je suis » dans le verset 48, ça nous rappelle de ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 3 et le verset 13 et 14, quand Dieu envoyait Moïse devant les enfants d'Israël pour leur dire qu'il allait les délivrer d'Égypte. Et Moïse dit à Dieu dans Exode 3, le verset 13, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Je dis à Moïse, notez, je suis celui qui suis. Alors, ça c'est le mot, le nom Jéhovah. Quand on voit Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est le verbe dans l'hébreu pour je suis, Jéhovah, je suis. Donc, il dit à Moïse, dites-leur, je suis celui que je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous voyez cette expression, comme nous voyons ici, au sujet du Christ, je suis le pain de vie. Ça, c'est la réponse. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ utiliser cette expression, il était en train de leur dire que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui maintenant qui était présent devant eux. Il n'y a pas deux différents dieux dans la Bible où il y a le Dieu de l'Ancien Testament et puis maintenant dans le Nouveau, nous avons le Seigneur Jésus. Non. Jean a déjà dit cela, que le monde a été créé par lui, que rien, rappelons-nous dans Jean chapitre 1, toutes choses, verset 3, ont été faites par elle, par la parole qui est Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi, lorsque nous lisons au début, au commencement, Dieu a créé le monde. Qui dit Dieu dit Christ. Il était là depuis l'éternité, mais donc son commencement ici sur la terre n'était pas son début. Il est depuis l'éternité. Donc, il est ce Dieu-là qui dit « Je suis ». Quand on dit « Je suis », c'est toujours au temps présent. Ce qu'il était depuis l'éternité, il est aujourd'hui et il sera pour toujours. Il est. Et cela me réconforte beaucoup, parce que je ne suis pas quelqu'un qui peut dire toujours « Je suis ». Il y aura un jour où je ne serai plus en sur cette terre ou bien dans cette chair. Bien vrai, une fois que Dieu m'a créé ou bien que je suis né par sa volonté et mon âme maintenant a commencé à exister, cette âme ne va jamais arriver à un point où ça n'existe plus. Tout être humain existe pour toujours. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons été depuis toujours. Cela est réservé uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour cela, il dit qu'il est le véritable pain de vie. La manne a cessé. C'était donné provisoirement, mais Christ ne cesse jamais. C'est pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Donc, il y a beaucoup de vérité, même dans cette expression, dans le verset 48. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la manne, parce que les Juifs étaient fiers de cette histoire de la manne, et ils racontaient cette histoire à leurs enfants. Ça faisait partie de leur histoire. Pourtant, ils ignoraient celui que la manne représentait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il dit, vos pères, verset 49, ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voilà un avertissement aux gens qui veulent avoir toujours des miracles et retourner en arrière et revivre encore ces histoires comme les gens veulent aujourd'hui, montre-nous un miracle. Et même ces Juifs-là, lorsque Christ parlait de la manne, ils voulaient insister du fait que si tu es véritablement qui tu es, qui tu dis tu es, donc il faut maintenant faire descendre cette manne de nouveau, maintenant. Et là, nous allons croire. Donc, ils voulaient même, à l'époque, un miracle. Mais Christ ne leur a jamais donné une telle satisfaction. Parce que si les gens ne croient pas à Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures, ils ne croiront pas même si il y a des miracles qu'il fait. Et ça, c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui voient les miracles de Christ. Pourtant, ils sont restés toujours dans l'aveuglement, parce que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'ils peuvent être attirés à lui. C'est pourquoi il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Les gens qui veulent vivre des cérémonies et des traditions peuvent bien suivre toutes ces traditions et cérémonies et finir par mourir et être éternellement condamné. Le salut n'est pas dans ces choses. C'est ce que Christ est en train de dire. Et il insiste là-dessus dans le verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel. Maintenant, ici. Cela veut dire que lorsque nous lisons la Bible et nous voyons l'histoire et nous voyons les prophéties et les types, les figures, les symboles et tout cela, ce qui importe, c'est de lire ces choses et voir comment Christ, maintenant, est l'accomplissement de tout cela. C'est pourquoi il dit, c'est ici, maintenant. Faut pas regarder en arrière. Ça, c'est une histoire passée. Les pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il faut pas chercher à retourner là. Mais c'est ici le pain. En Christ qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà encore la vérité que le salut est dans le Seigneur Jésus et dans sa personne, et non pas dans les cérémonies ou les traditions. C'est pourquoi il insiste encore dans le verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Vous ne voyez pas comment il prend chaque partie de son enseignement et résume cela dans une seule phrase. Il a commencé avec « Je suis le pain qui est descendu du ciel » dans le verset 41. Et ici, dans le verset 48, il dit « Je suis le pain de vie » maintenant dans le verset 51. Ça, c'est comment un bon maître enseigne. Il dit ce qu'il va dire, et puis il dit ce qu'il veut dire, et puis il redit ce qu'il a dit. Là, il n'y a pas de question sur son enseignement. Si les étudiants ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont ignorants, et non pas parce que le maître n'était pas clair. Alors ici, dans le verset 51, il résume le tout. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Donc d'abord, le pain vivant, c'est lui, le Dieu vivant. Quand il dit le pain vivant, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'il donne la vie, mais la vie est en lui, il est la vie. Et si quelqu'un vit, c'est parce qu'il leur a donné cette vie, de vivre. Autrement, il ne pouvait pas vivre. C'est lui qui donne à toute sa création la vie. Dans Jean chapitre 1 et le verset 4, parlant de la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, Jean 1, 4, il dit, « En elle était la vie, dans cette parole, en Christ, était la vie. » Donc, nul ne peut avoir la vie si ce n'est à travers Christ. C'est lui qui donne cette vie. Et aussi dans Jean, chapitre 11, le verset 25, lorsque Christ a ressuscité Lazare, et avant de le ressusciter, Marthe posait la question à Jésus de savoir pourquoi il n'est pas arrivé plus tôt, avant que Lazare ne meure. Et Christ lui a dit dans Jean 11, verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et le verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis, voilà encore, le Jéhovah, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Encore, de croire en lui, c'est Christ lui-même qui donne cette vie pour croire. Alors, c'est ce que Christ dit même dans le verset 51, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Manger de ce pain, c'est par l'esprit de la grâce recevoir Christ, exactement comme on mange la nourriture et cette nourriture entre en nous et devient partie de notre corps, rentre dans notre sang et nourrit ce corps spirituellement. C'est la seule manière qu'un pécheur peut vivre, c'est lorsque Christ donne cette vie pour le recevoir. Parce qu'un cadavre ne mange pas. On peut prendre du pain et mettre ça sur les lèvres d'un cadavre et ça ne peut pas nourrir le cadavre. Il faut la vie d'abord. Et où il y a la vie, il y aura aussi la faim. Comme où il y a la vie, il y aura la soif. Si nous ne voyons pas dans un pécheur cette faim ou cette soif pour Christ, il ne faut pas imaginer alors que c'est un chrétien. Il y a beaucoup qui sont des professeurs, ils font profession d'être chrétiens, mais ils n'ont aucun désir de connaître Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures. Ils ont leur idée de la vie chrétienne, mais Christ n'est pas leur appétit. Il ne faut pas dire que ceux-là sont en vie, sont encore morts dans leur péché. Combien de gens parlent du ciel comme étant un endroit où ça va être le loisir et on aura tout ce qu'on veut, comment les gens parlent. Pourtant, le ciel, c'est Christ. C'est pourquoi il a dit au brigand ce jour qu'il est mort sur la croix, pour lui, il est mort pour ce brigand, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il faut dire ça aux gens aujourd'hui qui parlent du ciel comme s'ils iront. Il faut leur dire que vous ne savez pas que le ciel n'est pas autre que de se réjouir pendant l'éternité dans l'agneau qui a été immolé. Quand je disais ça un jour à un homme, il a dit bah, « Mais il n'y a pas autre chose que ça ». Ça démontrait déjà que son cœur était toujours attaché aux choses charnelles. Parce qu'ils imaginent que le ciel, ça va être comme sur la terre, mais maintenant comme un paradis. Il n'y aura plus de maladies ou autres, mais maintenant on aura tout ce qu'on veut. Non, le ciel s'agit du Christ. Et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est Dieu qui donne cette vie pour appréhender Christ et croire en lui, et cela pour l'éternité. Il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Quand il dit sa chair qu'il donnerait pour la vie du monde, encore, ce n'est pas qu'il a donné sa vie pour tous les êtres humains dans le monde, mais plutôt pour le monde qui comprend les Juifs comme les païens. C'est dans le sens ethnique. C'est toujours comme ça qu'il faut comprendre ce mot « monde ». Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas simplement aimé des Juifs, mais il a aimé des Juifs comme des païens, des hommes comme des femmes, des hommes libres comme des esclaves, quel que soit la situation dans le monde, Dieu a choisi des pécheurs de chaque catégorie, de chaque nation pour qui Christ est venu donner sa vie. Mais il fallait, quand c'est écrit, c'est ma chair, exactement comme la manne dans l'Ancien Testament était visible. Les gens sortaient le matin et voyaient cette nourriture, cette manne qui couvrait la terre, et c'était pour eux la nourriture qu'ils pouvaient aller ramasser et puis préparer et manger. En fait, le mot manne dans l'hébreu signifie qu'est-ce que c'est? Mana en hébreu signifie qu'est-ce que c'est? Si on regarde quelque chose et on n'est pas sûr de quoi il s'agit, on dit mana en hébreu. Cela signifie qu'est-ce que c'est? Et c'est exactement cela avec Christ. Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? Ça surprend les gens. Mais ceux en qui maintenant Dieu révèle son Fils, ils embrassent maintenant Christ tel qu'il est. Ils ne continuent pas à poser cette question. Dieu est venu dans la chair, visiblement. Il s'est présenté devant les hommes, exactement comme la manne qui est tombée du ciel. Voilà Christ. mais il est venu pour donner la vie au monde, c'est-à-dire sa vie, pour les pécheurs du monde. Dans Hébreux chapitre 10, et on doit arrêter ici pour aujourd'hui, mais Hébreux chapitre 10, à partir du verset 18, c'est écrit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi est-ce que nous n'avons plus maintenant de sacrifice que nous offrons aujourd'hui? C'est parce que l'offrande a été faite une fois pour toutes et le pardon des péchés déjà effectué. Alors, verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, quand Christ dit ici dans le verset 51, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il parle là de sa mort, il fallait que le sang soit versé. Bien vrai, depuis l'éternité, Dieu a ordonné le salut des pécheurs, mais il fallait que Christ vienne et verse son sang. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, donner sa chair pour la vie du monde, donner sa chair pour la vie des pécheurs de partout dans le monde, c'est écrit par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà encore. Nous n'avons plus ce tabernacle, ce sanctuaire de l'Ancien Testament, mais nous avons une libre entrée dans le sanctuaire qui représente la présence de Dieu par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Donc, ça prend le symbolisme du tabernacle et du temple de l'Ancien Testament où il y avait le voile, où le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois par an, et cela seulement avec du sang. Mais notez bien ce que c'est écrit, c'est-à-dire de sa chair. Donc, exactement comme il y avait ce voile qui représentait une séparation d'entre les pécheurs et Dieu, et que, qu'à la mort de Christ, par sa crucifixion, ce voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Une libre entrée maintenant par une route nouvelle, c'est-à-dire de sa chair, son corps brisé, pour le salut des pécheurs. Et verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez, rien n'a changé dans la manière que nous devons adorer Dieu. C'est toujours le même, seulement c'est la forme qui a peut-être changé, l'aspect qui a changé, mais nous avons toujours un souverain sacrificateur, c'est Christ. Nous avons toujours un sacrifice, c'est son sang versé. Nous avons toujours l'autel, c'est Christ. Ouais. C'est lui qui est l'accomplissement de tout. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le mot sincère signifie sensible. Dans l'ancien temps où on faisait des pots pour mettre de l'eau dedans, quand le pot était brisé, parfois on prenait la cire et on mettait dedans pour remplir les fissures où c'était cassé. Mais ici, sensible, c'est-à-dire il n'y a pas de fissure dans le salut. En ce qui concerne Christ, nous approchons avec un cœur sincère, un cœur qui est dans cette foi que l'Esprit de Dieu donne, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout cela sont des symboles de l'Ancien Testament et la manière que les sacrificateurs entraient et sortaient du temple. Maintenant, Si nous sommes en Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin d'autres hommes pour remplir ce rôle, mais par la grâce de Dieu, chacun de ses enfants entre dans la présence de Dieu, dans la personne de notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, beaucoup de symbolisme que nous voyons ici. Mais, en tant que pain de vie, le pain qui est venu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, si par la grâce de Dieu, il nous a donné cette vie pour le connaître, c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui nous nourrit, qui nourrit nos âmes, et c'est en lui que nous vivons. Alors que le Seigneur vienne bénir cette parole à notre entendement.